France, hein, concernant cet atelier, vous le savez. C'est bien, vous voyez, je n'ai pas besoin de refermer.
Non, on voit bien,
Bien, c'est donc la dernière séance, on est au dernier acte de cette série consacrée à l'Égypte ancienne. Je vous repasse au cas où nos petites règles habituelles, mais je vais aller directement à l'œuvre qui va nous permettre de rentrer dans notre séance de ce jour, qui est celle-ci. Oh. Ah, d'accord. Non, c'est bien. Ça va aller. Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Qui est celle-ci?
Non,
vous voyez pas. Bien. Alors, on va
tout revisser.
Redévisser. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Pourtant, j'avais modifié. Enfin, j'avais appuyé à plusieurs reprises, mais peut-être pas assez. Bien, voilà. Non. Si, voilà. Voilà. Bon. Alors, en mettant grand écran, je pense que ce sera mieux.
Tant qu'à faire.
Voilà. Ça vous va, ça? Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que vous inspire l'œuvre que je vous montre à l'écran? Bon, comme d'habitude, on va commencer, on sait que c'est assez pratique, par des questions très techniques. Et puis ensuite, on va aller vers des questions touchant à la représentation et à l'interprétation de ce que vous voyez.
Pierre.
Oh, peut-être pas, il y a du verre dedans.
Du verre, alors
ah,
une
non,
pierre.
Non, mais de, c'est une poterie.
La céramique.
Ouais.
La céramique. Vaut mieux dire céramique, c'est poterie, comme l'on a dit, que ça concerne les pots. Hein. Ouais. Par contre, céramique, vous pouvez faire avec la céramique des pots, des statuettes, tout ce que vous voulez. Hein. Donc ce serait de la céramique.
Yes.
Céramique ou pierre, parce que vous m'avez dit les deux.
Non, pierre.
Alors certains sont pour pierre, d'autres sont pour. Céramique, bon. Ok, donc soit une pierre verte, soit une céramique
pierre.
Verte.
Hein
bah non, peinte et puis.
Non, c'est
ouais. Pardon.
C'est peint.
C'est peint, donc c'est de la pierre peinte.
Oui.
Donc c'est une pierre peinte ou bien une céramique peinte. Peinte comment d'ailleurs?
Oui, mais céramique,
deux couleurs, avec un engobe. Oui. Ça vous rappelle des choses qu'on a vues éventuellement?
Oh, il me semble que dans les petites amulettes, on a vu des choses qui ressemblent.
Alors, effectivement, on a vu des quantités d'amulettes. Vous vous rappelez? Rappelez-vous de, par exemple, notre grosse Twix, qu'on aime bien. Elle était, vous rappelez, faite dans ce qu'on appelle cette faïence égyptienne. Hein. Donc, on aurait là la même chose, en fait. Hein. C'est-à-dire une.
Peut-être bien.
Hein, peut-être bien. Donc, peut-être. Certains sont pour de la pierre peinte en verte, d'autres sont pour. Une pièce en faïence égyptienne, cette faïence égyptienne dont on a vu effectivement beaucoup d'exemples. Hein. Bien. Une petite idée de dimension peut-être?
Si c'est de la céramique.
Tout petit, c'est pas très grand. Hein, comme ça. Ok. Bien. Alors, bah, vous avez bien vu jusqu'à présent, au niveau de la matière, un mot quand même pour dire que c'est effectivement de la pierre glacurée. Ça, c'est assez curieux. Donc vous aviez à la fois tous raison et tous tort. C'est pas de la céramique, c'est de la pierre, mais c'est pas peint, c'est glacuré. C'est de la stéatite glacurée. C'est-à-dire qu'on a utilisé... la stéatite, c'est un type de...
Non, mais glacuré, ça veut dire...
Ah, glacuré, c'est-à-dire qu'on a mis dessus une glaçure, comme d'ailleurs pour les pièces en faïence que je vous ai montrées par ailleurs. Hein. Vous savez, les amulettes, on en parlait tout à l'heure, la touéris, hein, c'est une céramique glacurée, c'est un type de faïence qu'on n'avait pas tout à fait. Pas mal. Et bien là, vous avez la même chose, sauf que la base, si vous voulez, ça n'est pas du tout de la céramique, mais c'est bien de la pierre. Et sur la pièce, on a passé une glaçure, et c'est donc ce que vous voyez là.
Ça nécessite une cuisson.
Et la stéatite permet ça, justement. C'est une pierre qui permet ça. Hein. Donc, de la stéatite glacurée. C'est donc une pièce effectivement d'à peu près de cette taille-là. Bien. Donc une, je sais pas, une vingtaine de centimètres de haut à peu près, plus ou moins. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que représente la pièce que vous avez sous les yeux ?
Une dame.
Une dame, effectivement.
Une déesse.
Une déesse.
Mais normalement, ça fait un couple, non ? Il y a le bras.
Parce qu'il y a le bras. Alors, on voit effectivement à gauche un bras. Donc, ça veut dire qu'a priori, hein, vous le voyez le bras, hein, qu'a priori, cette personne, cette dame, n'était pas seule. Il y avait donc quelqu'un à gauche, autrement dit à sa droite. Hein. D'accord ?
De plus grand format.
De plus grand format, puisqu'effectivement, l'épaule et le bras hein, sont beaucoup plus grands. Que la personne, l'épaule, vous voyez, arrive là, hein, donc, au niveau de la tête de cette dame. Bien.
Bon, elle a des plumes sur la tête.
Elle a effectivement sur la tête deux grandes plumes, très hautes.
Mahat, alors ?
Pardon ?
C'est Mahat, non ?
Ah, ce serait Mahat. Mahat, vous vous rappelez peut-être qui c'est ? C'est une déesse. C'est une déesse, oui. De l'harmonie, effectivement, de l'harmonie, de l'équilibre, Mahat. Hein. Et elle a présenté comment, effectivement, Mahat ?
Elle a des plumes.
Alors, des plumes ?
Une plume.
Elle a toujours une plume sur la tête.
Il y en a deux, non ?
Pardon ?
Il n'y en a pas des fois où il y en a deux ?
Moi, je ne connais pas de Mahat avec deux plumes, je ne connais pas tout. Hein. Donc, je peux... Mais non, Mahat, c'est vraiment une plume. Une plume qui tient, effectivement, en équilibre, d'où ça... Hein, d'où ça, je dirais, la mission qui est la sienne, Mahat, c'est un peu celle qui permet une sorte d'équilibre général de l'univers, hein, grâce à l'univers tient, la plume tient sur sa tête, toute seule, toute droite. Bien. Donc là, cette personne en a deux. Hein. Ok, qu'est-ce que vous voyez d'autre qui...
Le cobra.
Alors, elle a effectivement sur la tête, là, un cobra. Oui.
Trois cobras.
Ce serait plutôt effectivement, parce que vous voyez là un cobra, et au centre un cobra. On voit mal, hein.
Ça fait moi, je vois pas.
Oui, non, c'est dur de voir, mais même de près, on voit qu'il y a trois choses. Hein. Hein. Donc il y a effectivement deux cobras. On les appelle comment d'ailleurs, on en a parlé ? Oui, Ureus, Uraus, enfin. Et puis il y a une manière de faire, hein, des cobras avec leur. Plastron développé, si j'ose dire, ok. Alors, il y a effectivement deux cobras, mais au centre, il y a quelque chose qui n'est pas un cobra. Qu'est-ce que ça peut être ? On voit bien de loin, mais si vous réfléchissez à certaines œuvres qu'on a déjà vues, peut-être que ça vous dira quelque chose. Pardon ?
Un bijou ?
Alors, on pourrait dire que ce sont des sortes de bijoux, effectivement. Hein. Souvent, d'ailleurs, sur les diadèmes ou autres, hein, et puis sur les représentations, on voit effectivement que le Réus, par exemple, est porté sur la perruque, une sorte de joyau de bijoux, effectivement. Hein, mais qui a en plus un rôle symbolique. Hein, on va essayer d'évoquer. Donc, il y a effectivement ces deux cobras, et au milieu, il y a autre chose. Rappelez-vous peut-être de certaines sculptures très, 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 très célèbres, hein, égyptiennes, où on voit le personnage avec justement sur sa tête un cobra puis autre chose à côté. Pensez au masque de Toutankhamon. Vous avez tous en tête.
Pas trop.
Bon.
Il y a trop d'or.
On
voit pas de détails.
Oh, c'est assez sobre. Hein. Masque de Toutankhamon, c'est de l'or, d'accord. Dans ton monde, c'est sobre. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
qui fait...
Elle tient dans la main.
Elle tient dans la main.
Oui.
C'est vrai que ça ressemble beaucoup au fouet. Hein. Le fouet, c'est quoi, vous me rappelez ? Le fouet, on l'a déjà vu, ça. Hein.
Oui, c'est le sceptre des pharaons.
Voilà, c'est le sceptre des pharaons.
Non, c'est un dé.
C'est un dé. Hein. Le pharaon, généralement, tient deux choses. Hein. Qu'est-ce qu'il tient ?
Bah, le sceptre et puis la crosse.
Voilà, c'est ça. Il tient une sorte de fouet, qu'on appelle effectivement flagellum. Hein. Et puis il tient une sorte de bâton recourbé. Vous me rappelez, parce que ça, on en a parlé, je crois que c'était la première séance. Hein. Vous me rappelez ce que ça évoque, ces deux choses-là, le bâton recourbé au bout et le fouet.
Le fouet, c'est un peu dur.
Pardon.
L'agriculture,
le fouet et le bâton courbé.
Oui, c'est le bâton pour les bergers.
Alors voilà, le bâton courbé vient sans doute des bâtons de bergers. Vous savez que tout autour de la Méditerranée, c'est le cas en Grèce, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les bergers ont souvent des longs bâtons avec un sorte de crosse, de crochet au bout, qui permet d'attraper la patte des animaux. Bien. Donc c'est sans doute de ça que vient cette espèce de sceptre recourbé au bout que tiennent généralement les pharaons. Okay. Mais ils tiennent également un flagellum, une sorte de ce qu'on pourrait appeler un fouet, entre guillemets, et qui serait l'évocation de quoi ? Alors peut-être effectivement celle du châtiment éventuel. En gros, on a intérêt à suivre la filet droit, autrement le pharaon vous fouette, entre guillemets, donc c'est un instrument de pouvoir, mais c'est peut-être aussi autre chose que l'on a eu l'occasion aussi d'évoquer. Ce fouet.
Chasse-mouche.
Le chasse-mouche, c'est aussi l'instrument des gens élevés, si vous voulez. Hein. Quand vous êtes un fella dans la vallée du Nil, vous avez rarement un chasse-mouche. Hein. Le chasse-mouche, c'est quelque chose qui vous pose. Hein. Donc le flagellum, hein, vous avez tous en tête, on l'a vu dès le départ, hein, des images de Pharaon le montrant avec flagellum et bâton courbé au bout. Bâton courbé, donc, effectivement, c'est l'évocation du troupeau. Hein. Le Pharaon, après tout, bah, il doit veiller à ce que son troupeau, entre guillemets, reste entier, hein, comme les bergers avec leurs bâtons font en sorte d'aller chercher les animaux qui vont à droite à gauche pour les ramener dans le bon chemin, bien. Et puis le flagellum, qui est peut-être une évocation de ce pouvoir, j'allais dire, un peu militaire du pharaon, mais aussi du chasse-mouche, c'est-à-dire quelque chose qui appartient aux gens de la haute société, qui peuvent se permettre de chasser les mouches, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, tout. Bien. Alors là, qu'est-ce que c'est ?
Mais c'est plutôt végétal, je trouve.
Alors, effectivement, ce que vous avez là ne fait pas trop penser au flagellum, qui est plus, comment vous dire, plus, voilà, plus anguleux. Hein. Ouais. Le flagellum, c'est un bout de bois, hein, un hampe, avec trois éléments qui pendent. Hein. Là, c'est un peu mou. Hein. Donc, c'est effectivement plutôt un élément végétal qui pourrait faire penser à quoi, par exemple ?
Céréales,
peut-être, oui. Peut-être une fleur aussi, on a vu des lotus dont on a parlé à plusieurs reprises. Hein. Voilà, donc c'est peut-être plutôt un élément végétal. Dans la littérature que j'ai lue sur cette pièce, sur cette statuette, j'ai pas vu d'autres éléments que le fait que ce serait sans doute effectivement une sorte de sceptre végétal, mais j'ai pas vu d'interprétation particulière. Bien. Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui caractérise la figuration que vous avez sous les yeux ? Il y a encore une ou deux choses, je crois, qu'on pourrait dire.
Il y a la restauration.
Alors, c'est évidemment une pièce qui a été restaurée. C'est d'ailleurs assez amusant parce que c'est une pièce qui appartient, comme toutes celles que je vais vous montrer ou quasiment aujourd'hui, au Louvre. Hein. Je vous ai dit pourquoi la dernière fois. Hein. Un, on peut avoir des photos convenables. Et deux, je me suis dit que c'était bien de regarder des pièces que, peut-être pas actuellement, mais enfin, qu'on peut assez facilement aller voir. Bien. Et il se trouve qu'au début du 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle, avec une grosse collection d'antiquités égyptiennes, le Louvre avait pu acquérir la partie inférieure de cette statuette. Et puis, une cinquantaine d'années, est passée en vente publique la partie supérieure, que les amis du Louvre ont pu acquérir, on a pu recoller le haut et le bas. Voilà. Donc c'est assez amusant. Donc cette sculpture a donc été complétée. Bon, maintenant, on trouvera peut-être un jour le personnage qui est là, hein. Enfin, il en manque encore, donc il y aura peut-être des choses qui vont être découvertes un jour ou un autre, ici ou là. Donc il y a effectivement une question de restauration, mais qu'est-ce que vous pouvez dire encore de... Je vais peut-être un peu fermer là, non ?
Non,
ça va ?
Non, pas bien.
Ça va. Bah, tant pis.
Voilà. Le motif sur sa robe,
oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, absolument, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est ?
Les ailes du vautour.
Et voilà. Elle a effectivement sur sa robe les ailes de vautour. Vous voyez ça là ? Comme un vautour qui...
Il l'encerclerait.
Exactement. Hein. Un vautour qui refermerait ses ailes sur elle. Hein.
Une sorte de vautour. C'est une momie d'ailleurs.
Pardon ?
Ça faisait penser à une momie pour moi.
C'est pas faux. Hein. Alors c'est une robe effectivement très, on veut dire, très moulante. Hein. Ça c'est aussi la mode du temps. c'est-à-dire des robes extrêmement moulantes, hein, mais qui ne sont pas, sans rappeler, vous avez raison, les momies qui, ben, effectivement, sont entourées dans l'aide qui elle-même moule le corps. Hein. Okay. Donc vous avez raison, là, on voit ce qu'on appelle la dépouille d'un vautour, c'est-à-dire deux ailes qui viennent couvrir le personnage. Hein. Est-ce que vous ne voyez ça que là, d'ailleurs? Regardez bien. C'est dur de voir de loin. Hein.
Sur sa coiffe?
Oui, exactement. Sur la coiffe, vous avez la même chose. C'est-à-dire qu'ici et là, vous voyez également sur la perruque, hein, ici et là, la même chose. C'est-à-dire deux ailes de vautour qui viennent sur la perruque, hein, de part et d'autre, encadrer la tête, de même que les ailes de vautour sont là sur le corps. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ailes de vautour?
Ça, c'est une déesse aussi.
C'est une déesse. Donc, qu'est-ce qui est une déesse? La figure qu'on voit là.
Les ailes de vautour.
Ah, le vautour lui-même, alors. Ouais. Donc, et alors, quelle serait la fonction de cette divinité vautour? À votre avis? Tu es vraiment assez éloquente, là. Hein.
Ben, protéger. En...
Voilà, une fonction de protection, tout bêtement. Hein. Le vautour, il est là. Et vous voyez, il entoure littéralement, il en serre la figure. Hein. Il en serre non seulement le corps, mais également la tête. Hein. Donc le vautour, il est là, cette espèce de divinité vautour vient protéger, effectivement, cette personne.
Alors le truc du milieu, c'est la tête du vautour.
Et bien voilà, c'est-à-dire ce que vous avez là, en fait, au centre, c'est la tête du vautour. Vous avez deux uraeus, donc deux cobras, si vous voulez, et au centre, vous avez la tête d'un vautour. Alors justement, on a vu que le vautour était là pour protéger, hein, les ailes qui vraiment enserrent la figure le montrent bien, mais les cobras, enfin les serpents, ils sont là pour quoi? L'uréus double, il sert à quoi? Faire joli, on se met des serpents, parce qu'après tout c'est fun. Ça sert à quoi?
Non, c'est toujours l'œil d'Horus, non?
Alors l'œil d'Horus, c'est vraiment l'œil de Jatte.
Oui, non. Hein, mais c'est pas aussi le cobra,
n'est pas une histoire de l'œil d'Horus? Non, vraiment l'œil Ujjat, c'est l'œil d'Horus. Or là, c'est vraiment deux serpents, hein, qui sont de chaque côté du vautour. Pourquoi mettre des serpents sur la tête d'un personnage?
Ça fait équilibrer, puis il y en a deux.
Alors quelquefois, il y a un serpent et un vautour. Il n'y a pas deux serpents. Revenez encore une fois au masque de Toutankhamon, vous allez tous voir sur Internet tout à l'heure quand vous reviendrez chez vous, là vous verrez qu'il y a une tête de vautour et un uréus. Hein. Bon là, il y a deux uréus et une tête de vautour. Voilà, l'art égyptien, ça répond à des règles, mais il y a aussi des licences. Alors pourquoi un ou deux uréus, un ou deux serpents sur la tête, par exemple ici, de ce personnage?
Il y a une histoire d'éternité, parce que le serpent perce les exuvies.
Oui.
Se renouvelle sans cesse.
Oui, c'est vrai que c'est un élément important. Hein. C'est un élément, absolument. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre élément très simple, hein? Ben, c'est la protection encore.
Oui, oui.
Hein. Vous savez qu'un serpent, notamment ce type de serpent-là, il ne faut pas trop rigoler avec, quoi. On est d'accord. Hein. Si vous rencontrez ce genre de serpent, je ne vous engage pas à leur faire bousy-bousy. Ça se passerait peut-être pas très bien. Hein. Donc, ce serpent-là, qui est en plus représenté au moment où il se dresse. Hein. Vous savez, ces serpents-là, font comme tous les serpents, ils vont et viennent. Hein. Mais quand ils se sentent attaqués, ils se dressent sur leur corps, et c'est à ce moment-là qu'ils développent cette espèce de plastron que vous voyez là. Hein. Donc, le serpent que vous voyez là, ce n'est pas un petit mignon serpent qui se balade dans la nature et qui ne mord rien à personne. C'est le serpent qui veille, et qui fait que si jamais vous allez embêter celui qui le parle, ça va mal se passer. Hein, voilà. Donc le serpent comme le vautour, ils sont là pour protéger. Il n'y a pas un serpent en vautour pour faire joli sur une coiffe. Il y a un serpent en vautour parce qu'ils sont là, ils ont un rôle de protection. D'accord ? Je tiens à vous dire aussi que il se trouve que ce serpent là et ce vautour là, l'un et l'autre sont symboliques de deux parties de l'Égypte. Il se trouve que le vautour, il évoque la haute Égypte et le serpent la basse. Hein. Moi, j'ai toujours envie de... Enfin, je ne sais jamais comment me retenir, et j'ai retenu parce que le vautour, eh bien, il vole, donc il est en haut, si vous voulez. Hein. Et le serpent, ben, il est sur la terre, donc il est en bas. Donc le serpent, c'est la basse Égypte et le vautour, c'est la haute Égypte.
C'est voilà. Le haut-Rhin et le bas.
Ben, par exemple, oui. Mais alors, je me gourre toujours avec le haut-Rhin. Je ne sais jamais où est le haut et le bas, etc. Ça, comme la Haute et la Basse Normandie autrefois, c'était l'enfer, je trouve. Enfin, ouais. Mais là, pour l'Égypte, je trouve que c'est clair. Le vautour est en haut, le serpent est en bas. Vautour haute Égypte, serpent basse Égypte. Ça, non. Bien. Bien, alors, on a à peu près décrypté quel était ce personnage. On a un personnage qui a, je résume, hein, une robe très très moulante. Ce personnage qui était accompagné jadis d'un autre personnage que l'on voit, ou plutôt que l'on devine à gauche avec un bras, mais qui était plus grand qu'elle. Hein. Ce personnage qui est là, on en voit en effet l'épaule au niveau du dessus de sa tête. Et cette femme que l'on voit ici a d'une part une coiffe couverte de deux grosses plumes qui se développent au-dessus d'une sorte de medius hein, que vous voyez là, de toque si vous voulez. Elle a une perruque qui est recouverte d'une dépouille de faucon et sur le dessus de laquelle apparaît une tête de faucon avec deux uræus. Elle porte un sceptre végétal et sa robe moulante est elle-même couverte par une autre dépouille de faucon, autant d'éléments qui viennent protéger la figure en question, tant il est vrai que le faucon comme l'uræus sont là pour évoquer la protection de cette figure. Alors maintenant, qui est ce personnage?
C'est une déesse ou une femme de Pharaon?
Ou une déesse ou une femme de Pharaon. Vous penchez de quel côté? Déesse, pardon?
Non, la femme de Pharaon.
Femme de Pharaon.
Disons que c'est la femme de celui qui était derrière.
Voilà, donc on aurait là... Comment est-ce qu'on appelle une femme de Pharaon? Une pharaonne?
La reine.
Une reine, voilà, la reine. Pharaon, de toute façon, c'est un roi. Hein. Donc souvent, on dit d'ailleurs, plutôt que de dire Pharaon, on dit le roi. Bon. Pharaon, ça fait... C'est bien, mais bon... Donc c'est une reine, hein, avec à gauche ici le roi, c'est-à-dire le pharaon, ou bien alors il s'agit d'une divinité,
oui, avec une autre divinité.
Avec une autre divinité, hein. Donc on a soit une divinité avec une autre divinité, soit une femme de pharaon avec son pharaon de mari à gauche, mais dont il ne reste plus grand-chose. Vous avez une préférence? Non.
Plutôt pharaon.
Plutôt pharaon, donc femme de pharaon, reine.
Reine, reine.
Plutôt une reine. Eh bien, c'est une reine.
C'est Néfertari.
Pardon. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser à Néfertari. Hein. C'est une possibilité. Ce n'est pas Néfertari. C'est une reine qui s'appelle Tilly.
Ah oui.
Vous voyez qui c'est Tilly?
Oui, c'est Tilly.
C'est Tilly premier.
C'est Tilly premier.
Pardon.
Et la femme de Séti quelque chose. Séti premier.
Ce n'est pas la femme de Séti premier. On est dans à peu près dans la même période, mais...
Oui. Alors, le 2, le 3...
Alors...
Eh bien, le 14 Louis... Ah, c'est Amenophis.
C'est la femme d'Amenophis III. Amenhotep III, si vous préférez. Amenhotep ou Amenophis, c'est pareil. Hein. C'est simple, hein. Les pharaons ont plusieurs noms. Ils ont un nom, en fait, qui est vraiment le nom égyptien. Amenhotep, c'est le nom égyptien. Amenophis, c'est plutôt le nom égyptien grecisé, si vous voulez, hellénisé. Hein. Alors nous, on appelle généralement plutôt Amenophis. Hein. Amenophis, ça nous parle. Mais Amenhotep, c'est la même chose. Hein. Donc Tilly, T-I-Y, c'est l'épouse d'Amenhotep, Amenophis III. Hein.
Au musée de Berlin, il y a une tête de Tilly.
Alors, il y a évidemment une tête de Tilly, et puis il y a aussi à Berlin la fameuse tête de Néfertiti. Mais il y a effectivement au musée de Berlin une tête de Tilly. Tilly a été très, très représentée, effectivement. Hein. Vous avez raison, il y a une très belle tête de Tilly au musée de Berlin. Bon, il y en a, on en connaît d'autres encore. Hein. Effectivement, Tilly est une reine dont on voit d'assez nombreuses représentations. Hein. Tilly, vous la connaissez vous... Non.
Pas plus
que ça.
Une princesse qui venait d'une Italie.
Pardon.
Une princesse qui venait d'un pays lointain qui s'appelait l'Italie.
Ben c'est possible, effectivement, oui. Oui. Et vous la situeriez, je ne sais pas, vous la... Bon, c'est une reine hein, du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Oui. D'accord. Ça va. On est donc au Nouvel Empire. Bon. C'est bon. Est-ce que vous la situez par rapport à d'autres figures un peu célèbres que l'on connaît, plus ou moins, de l'Égypte antique? Donc, elle est la femme d'Amenophis III, d'accord? Vous pouvez me citer le nom d'un fils célèbre d'Amenophis III? Pardon? Ramsès, c'est un petit peu après. Ramsès, il est à la fin du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc Ramsès, il ne va pas tarder. Hein. Ramsès, c'est plutôt, j'ai pas ces dates en tête, hein. On le verra peut-être tout à l'heure, c'est autour de 1310, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus tard dans le siècle. Hein. Mais c'est le même siècle, effectivement. 14e avant Jésus-Christ. Hein. Ramsès II. Hein. Ramsès II. Hein. Bon, on verra peut-être ça tout à l'heure, mais gardons bien en tête le nom d'Amenophis ou Amenhotep III et de sa femme Tiye, parce qu'ils nous seront utiles tout à l'heure. Hein. Amenophis III, ce n'est pas le seul, il y en a eu beaucoup de pharaons, vous pensez, sur plusieurs millénaires, hein, des pharaons, il y en a. Hein. Voilà. Mais Amenophis III, c'est quand même, un peu comme Ramsès, vous le citez, hein, un des grands moments, en particulier au Nouvel Empire, hein, de l'histoire de l'Égypte antique. Donc gardons peut-être ce nom d'Amenophis III en tête et le nom de la reine Tiye. Bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, avec cette introduction, j'aimerais qu'on aborde une chose qu'on n'a pas trop abordée, justement, c'est la question de Pharaon et de sa représentation. Hein. On a beaucoup parlé de tas de choses. Hein. On a parlé des Ushepti, ce qui nous a permis quand même d'évoquer des choses pharaoniennes, mais pas que. On a parlé du... j'allais presque dire la mythologie égyptienne à travers les amulettes, vous vous rappelez. Hein. On a évoqué le mobilier funéraire, hein, à travers deux séances. On a parlé des vases canopes. Je ne ferai pas réviser les... On le fera peut-être tout à l'heure. Mais... les noms des vases canopes. Mais bref, on a également évoqué d'autres types de matériel funéraire, comme les sarcophages, par exemple. Hein. Mais on n'a pas trop évoqué la figure du roi. Et donc j'avais envie aujourd'hui qu'on l'explore et qu'on voit un peu comment présente le roi, le pharaon, dans l'Égypte ancienne. Alors on va commencer, ou continuer, par ceci. Alors.
La pierre.
Alors, on est en pierre, oui. Une idée de la taille, peut-être, de cette sculpture.
Très grand, elle est grande.
C'est grand, oui, c'est grand. On est là devant quelque chose qui fait à peu près 2 mètres de haut. Hein. C'est donc une pièce assez importante. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous y voyez ?
Un pharaon. La coiffe, la barbe.
Alors, il a une coiffe, il a évidemment une barbe. Rappelez-moi peut-être, on en a parlé déjà, le nom de cette coiffe. C'est le Némès. Hein. Ça, ce qu'on appelle le Némès. Le Némès, c'est donc cette sorte de coiffe, hein, que vous voyez. Le Némès est décoré d'un petit élément que vous devinez, même s'il est cassé. Voilà, là, on voit les restes d'un uréus. Ça ne vous étonne pas, vous savez pourquoi. Hein. Alors, quelquefois, il y a l'uréus, quelquefois, il y a le faucon. Là, il n'y a que l'uréus, ok. Mais il est là, et vous savez pourquoi. Bien. Alors, le Némès, très bien, avec l'uréus, quoi d'autre, vous le disiez ? La barbe.
La barbe postiche, hein. Oui.
Alors voilà, c'est une barbe postiche. Hein. Pourquoi une barbe postiche ? Pourquoi est-ce que le pharaon ne se laisse pas pousser la barbe ? C'est tout. C'est tout. Plutôt qu'avoir une barbe postiche.
Ça tient chaud, la barbe.
Oui, ça tient chaud. Ça, c'est vrai. C'est un...
Oui, mais même le postiche, il tient chaud. Oui, mais le postiche, il ne le met pas tout le temps.
C'est vrai.
Il ne le met que pour les photos.
Voilà. Effectivement. Après, il l'enlève vite. Mais pourquoi donc c'est pas la vraie barbe ? Il fait chaud et donc on préfère ne pas avoir de barbe.
Parce que ça doit être la réminiscence d'une barbe d'un quelqu'un.
Oui, alors il se trouve que pour des raisons, j'ai pas trouvé dans ce que j'ai lu d'éléments qui expliquent la raison de cette barbe. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que les Égyptiens se rasent. Hein. Donc, pas de barbe. Ça, c'est une chose qui n'existe pas du tout. Hein. D'ailleurs, l'épilation, pour les hommes comme pour les femmes, hein, est un élément très important en Égypte antique. Donc, pas de barbe naturelle, ça ne se fait pas, mais une barbe postiche, qui est l'apanage à la fois des rois et des dieux. Hein. Souvent, les dieux ont une barbe aussi, postiche. Les rois aussi. Et d'ailleurs, certaines reines qui règnent, quand un pharaon, par exemple, décède, et que c'est sa femme qui règne, elle portera la barbe. Par exemple, la Hatshepsut. Hein. Donc, on n'est pas... Enfin, la barbe, c'est, j'allais dire, un attribut à la fois du roi et du dieu. C'est un attribut de pouvoir, si vous voulez dire. Notez que souvent, les barbes des dieux sont un peu différentes de celles des humains, entre guillemets. Hein. La barbe du dieu, voilà, la barbe du dieu, elle est souvent recourbée au bout, Or que la barbe humaine, celle de Pharaon, elle est plate, elle est droite. Elle n'est pas courbée au bout. Bien. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous pourriez dire qui caractérise cette figure de Pharaon ?
C'est esthétique, les mains.
Pardon ?
Les mains sur les genoux.
Oui, absolument.
Avec un aspect statique.
Oui, absolument. Le côté très statique, les mains posées sur les genoux. Bon, le pharaon, il est assis. C'est important de le dire, hein, après tout. Il pourrait être debout, couché, que sais-je. Hein. Il est assis. Voilà. Et effectivement, les mains posées sur les genoux ont une attitude très statique. Hein. Qu'est-ce qui, justement, j'allais dire, sort de cette vision très, très statique que vous voyez là ? Quelle est l'impression, finalement, qui nous est donnée dans une figure telle que celle-là ?
Une sorte de majesté.
Une majesté, certainement, oui.
Une stabilité.
Une stabilité, oui.
Il attend la vénération.
Il y a de ça, hein, il y a un côté, effectivement, oui, votre terminologie bonne, hein, attend de vénération, on a envie de se prosterner, quoi. Il en donne, en quelque sorte, l'occasion, hein, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi ? Moi, je dirais qu'il y a quand même une certaine idéalisation, a priori. Hein. Je ne suis pas sûr que le... Enfin, vous voyez là, ait été aussi athlétique dans la réalité. Hein. Il y a là aussi une volonté, dans une œuvre telle que celle-là, d'une certaine idéalisation. Hein. Par exemple, vous voyez, les pharaons, généralement, sont des gros malabars, musclés, etc. Hein. Vous voyez la guerre de pharaons bedonnants et chétifs. Hein. Voilà. Hein. Là, il y a une espèce d'impeccabilité. Vous savez, c'est un petit peu comme la Grèce au 5e siècle. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est beau, parfait, etc. Hein. Et le pharaon, il est toujours parfait. Hein. Voilà. Bon, c'est bien une manière de montrer, justement, sa perfection que de montrer des sculptures où il est idéalisé, si vous voulez. Vous avez parlé d'un personnage un peu, encore une fois, bossu, chétif et mal fait. Il est impeccable, n'est-ce pas ? Il a des épaules larges. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui effectivement impose. Hein. Il y a peut-être un autre élément assez amusant, d'ailleurs, dans une représentation telle que celle-ci, mais que l'on voit dans, finalement, toutes les représentations de Pharaon, ou presque. Hein. C'est quoi d'autre ? Qui, justement, insiste sur, je dirais, la... l'omniprésence du pharaon et le fait vraiment que tout nous fait regarder cette figure et rien ne nous en distrait. Il est assis sur quoi ?
Un
trône ? Un trône, ouais. Ben, il est assis sur une sorte de cube, quoi. Et ça, c'est quand même étonnant. Regardez en tête vos, je sais pas, les présentations que vous avez, beaucoup plus tardives, hein, mais de tels rois, de ça, en France, au XVIIe siècle. Le roi est présenté soit assis sur un trône, soit à côté d'un trône très beau, doré, avec un grand truc, il y a des aigles dessus, il y a des draperies tout autour. On va dire, il y a du décorum. Hein. Là, vous le voyez, le décorum ? Le décorum, c'est un cajon sur lequel est assis Pharaon. Il n'y a rien, si vous voulez. Hein. Tout vient là pour... vraiment montrer Pharaon. Hein. Point d'élément qui vient là souligner l'importance de Pharaon. C'est Pharaon qui compte. Hein. D'ailleurs, son nom est marqué sur la sculpture, ce qui montre d'ailleurs l'importance de l'écriture. C'est le nom inscrit dans la pierre qui montre qu'on a là Pharaon, et tel Pharaon, puisque son nom est là. Hein. Et donc, on ne va pas, j'allais dire... adoucir le message en mettant je ne sais quel trône avec je ne sais quelle verroterie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est Pharaon point d'aide, c'est lui contre. Hein. Donc il est beau, il est grand, il est large, il est spectaculaire, hein. il est calme. Hein. On a envie de le vénérer. En même temps, il le vénère. Hein. Cette pose avec les mains sur les cuisses est une pose qui est aussi une pose qui peut être celle de l'adoration. Hein. Donc il est adoré, il adore. Hein. Donc on a là une sorte de... Vous ne voulez pas que je ferme, là ? Non, non, ça vous va. Oui, il y a un reflet. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, on peut peut-être fermer un peu, mais quitte à rouvrir un peu l'autre. Non, non, parce que c'est un peu dommage. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne peux pas arrêter. Bon, ça vous va quand même. Vous voyez, bien. C'est mieux quand même. Hein. Bien. Vous avez une idée du pharaon qui est représenté ici? Ramsès, Ramsès II, parce qu'on passe pas vraiment de Ramsès Ier. Hein. Ramsès II, peut-être. D'autres idées, d'autres idées.
Tout en Camon.
Ah,
il est jeune, là.
Ah ben alors, oui, ça, vous avez raison de dire, ça fait partie des délégations, hein, parce que le pharaon est toujours jeune. Hein, bien sûr, il ne peut pas être décrépit, vieillissant, il mérite partout, c'est pas possible. Hein. Pharaon, il est beau, il est grand, il est jeune, il est plein de pouvoir, plein de puissance, il est doué, il est partout. Hein. Donc peut-être Ramsès. Alors, on va regarder le... En fait, c'est à nouveau Amenfis III. Mais regardez, j'ai mis et Ramsès II. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La sculpture que vous voyez, là, c'est Amenfis III, mais c'est aussi Ramsès II.
On l'a recyclé.
Voilà. On l'a recyclé, on l'a récupéré. Mais comment ? Et pourquoi ?
En changeant de nom.
Alors, on a changé effectivement le nom. C'est-à-dire qu'il y avait sur la statue marqué Amenfis III, et on a effectivement enlevé ça, c'est-à-dire retaillé le bloc, et on a mis Ramsès II. Bien. Pourquoi ? Et est-ce qu'on a fait que ça ? Est-ce qu'on a que changé le nom ?
Dans quel ordre ils sont chronologiques ils sont ?
C'est d'abord Amenophis, et après Ramsès. Puisqu'Amenophis, c'est... Voilà. Oh tiens, je me suis trompé là. Voilà. Mais oui, c'est, les dates ne sont pas bonnes, mais c'est pas grave. Si vous voulez, Amenophis, il est au début du 14e, Ramsès est à la fin du 14e. Je me suis trompé dans les dates, pardonnez-moi. Alors, encore une fois, pourquoi et comment ?
C'est du recyclage.
Alors, c'est du recyclage, effectivement, mais pour quelle raison ? Ramsès est un très grand roi, pourquoi ne pas avoir lui aussi. Décider de faire une statue à son image.
Mais parce que de toute façon, ce n'est pas l'image du pharaon, c'est tellement idéalisé que ça peut correspondre.
Ah, autrement dit, tout peut correspondre. Un pharaon, tout ça est un peu passe-partout, finalement. Hein. Donc finalement, on change le nom, c'est pareil. Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même, on ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a quand même des faciès idéalisés, mais en même temps. Reconnaissable. En fait, on arrive à reconnaître la tête de Ramsès II, la tête de Ramsès III, etc. C'est idéalisé, mais reconnaissable quand même. Il y a du naturalisme, ça se dit ça, un côté naturel, on va dire, ou véridique, dans l'idéalisation. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Donc en fait, on arrive vraiment à reconnaître Amenophis III, tout comme Ramsès II.
Parce qu'il voulait faire oublier Amenophis.
Alors, ça peut être effectivement la volonté de faire oublier son prédécesseur. Hein. Effectivement, ça peut être une solution. On a vu ça dans d'autres temps et sous d'autres régimes.
Ou bien être dans la file.
Ou au contraire, d'être dans la lignée. C'est-à-dire qu'on s'approprie Amenophis III, en devenant son successeur et en lui ressemblant d'une certaine manière. Oui, ça peut être une possibilité. Il y a peut-être d'autres possibilités aussi, qui sont lesquelles, par exemple. Alors, il peut y avoir plus d'argent. Alors, bon, récupérant, voilà. C'est un cyclage économique. Pardon ? Ça peut être le manque de temps aussi. Hein. Quelquefois, il faut aller vite. Hein. Alors, au plus, on devait resculpter toute la statue. Ben, on récupère et puis on fait sculpter que le nom. Hein. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a que le nom qui a été resculpté ?
Est-ce qu'on a retouché au visage ?
Voilà, on a un peu retouché au visage. C'est intéressant d'ailleurs, alors je ne peux pas vous... J'aurais pu, j'ai oublié de le faire. On a pu en étudiant de près ces sculptures voir qu'à l'époque de Ramsès, on a repris certaines parties de la sculpture pour faire de cette Amenophis III un Ramsès II. Hein. Par exemple, le torse a été repris. D'ailleurs, vous voyez peut-être que les pectoraux sont un peu en épaisseur, hein, précisément parce que le torse a été un peu revu. De la même manière, la tête d'Amenophis III est normalement plus en hauteur. Celle de Ramsès est plus contenue, si vous voulez. Donc on a repris la partie basse du visage, ainsi de suite. Si vous voulez. On n'a pas fait que changer le nom, on a aussi repris un certain nombre de choses du corps et du visage pour vraiment faire d'Amenophis un Ramsès. Sauf que quand on regarde de près, ça se voit quand même. Si vous voulez, hein. Et ce, pour toutes les raisons que vous avez dit. En tout cas, on a là la représentation assez typique d'un pharaon assis dans sa majesté, Hein, cette espèce de silence, de calme, qui vraiment fait qu'on ne regarde que lui. Il est sur un siège très très simple, hein, mais une sculpture qui en même temps est un remploi à l'époque de Ramsès d'une sculpture de Memphis III, et une sculpture qui montre Pharaon avec certains de ses attributs typiques, le némès et la barbe postiche. Bien, alors on va regarder une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est encore Pharaon avec un enfant devant.
Pharaon avec un enfant devant. Hein. Donc on aurait Pharaon, à nouveau assis sur un siège très simple, hein, et un enfant devant. Cet enfant, ce serait qui? Son fils. Donc on a Pharaon qui est devant son fils. Pas mal. Ce Pharaon, vous pouvez le décrire en deux mots?
Il a des hiéroglyphes sur sa coiffe.
Il a des hiéroglyphes sur sa coiffe.
Elle est énorme,
la coiffe.
Ah ouais.
C'est une pierre noire.
Une pierre noire, oui. Oui, une diorite.
C'est un dieu qui protège Pharaon.
Ah.
Et Pharaon en plus petit, là, devant lui.
Ah, ça, ce serait donc une autre solution. C'est qu'on n'aurait pas Pharaon papa qui protège Pharaon fiston, mais on aurait un dieu qui protège un Pharaon. D'où la différence de taille, d'ailleurs. Peut-être. Oui. Bon. C'est pas mal,
il
ça.
Il porte des lunettes.
Pardon?
Il y a un problème de... Je vois d'ici, j'ai l'impression qu'il porte des lunettes.
Le pharaon, non, ça non.
Ah oui, mais il y a des traits quand même autour.
Oui, alors...
Alors,
c'est vrai que la sculpture, si vous voulez, est très marquée. Hein, ouais. Ce qui fait que, effectivement, on peut avoir cette impression-là. Ce qui peut donner, alors, c'est pas le cas-là, mais ce qui peut donner aussi une impression, c'est quelquefois, carrément, les traits... Les sourcils, les pupilles, etc., sont creusés et étaient comblés par une matière différente.
Ah oui.
Ça arrive aussi. Hein, du métal, que sais-je. Hein. Voilà. Alors là, ce n'est pas le cas. Mais les traits sont très, très aigus, ce qui donne l'impression que vous dites. Hein. Alors, soit on a un pharaon qui protège son fils, soit on a un dieu qui protège son pharaon. D'ailleurs, par parenthèse, qu'est-ce que ça vous dit, ces deux probabilités? Dans un cas, un pharaon qui protège son fils, dans l'autre, un dieu qui protège Pharaon.
Protection.
Protection, de toute façon, oui. Puis finalement.
La filiation.
L'idée de filiation. Quelle est vraiment la différence entre pharaon qui protège son fils et un dieu qui protège Pharaon?
Le pharaon, c'est pas assimilé au dieu.
Ben voilà. Quelque part, c'est la même chose. Puisqu'un pharaon, c'est un dieu. Hein? Donc finalement, c'est un peu la même chose. Que ce soit papa qui protège fiston ou Dieu qui protège Pharaon, c'est de toute façon un Dieu qui en protège un autre. Hein, donc c'est un peu la même chose. Hein. Sauf que c'est quand même pas tout à fait pareil. Et vous avez raison, c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui protège un Pharaon. D'ailleurs, regardez bien. La barbe que vous avez là, elle ne ressemble pas du tout à la barbe qu'on a vue sur Amenophis ou Ramsès dans la sculpture précédente.
Elle recourbe.
Voilà. Alors, elle l'était. Elle est plus fine. Et elle était recourbée au bout. Là, le bout est cassé, mais effectivement, elle est plus fine et se recourbée au bout. Hein, c'est pas la grosse barbe, boum, droite et un peu épaisse qu'un pharaon. C'est une barbe divine, donc qui désigne plus un dieu qu'un pharaon. Vous avez une idée de qui est ce dieu-là avec cette grande coiffe? Cette coiffe, c'est quoi, en fait?
En fait, c'est la place de plumes. Non, c'est une mitre de deux plumes, mais c'est Osiris.
Ah voilà, alors, ce sont deux plumes. Hein. Rappelez-vous notre... Tiens, comment est-ce qu'elle s'appelle, la reine qu'on a vue au départ?
Tille.
Rappelez-vous notre Tille, elle avait une coiffe avec des plumes comme ça. Hein. C'est le même genre de coiffe que vous avez là. Bien. Donc, effectivement, ce sont deux plumes. Alors, c'est vrai que ça pourrait faire penser à Osiris, parce qu'on ne l'a pas vraiment vu, mais Osiris, il a souvent une sorte de couronne, comme ça, avec une plume de chaque côté. Hein. Mais simplement, dans la coiffe d'Osiris, c'est pas deux plumes comme ça, c'est vraiment deux petites plumes de chaque côté de la coiffe verticale. Hein. Là, c'est en deux hautes plumes. Ça correspond à un dieu dont on a parlé à une ou deux reprises, mais qu'on n'a jamais vu. Pourtant, il est capital. C'est un des rares dieux très importants qu'on a évoqué très vite. Je veux dire que je vous le montrerai un jour, et bien c'est aujourd'hui. Le jour est arrivé. Et ce dieu, c'est qui?
C'est
Amon, c'est ça. C'est Amon. Hein. C'est Amon. On l'appelle parfois Amon-Ré, enfin, c'est là. Parce que une fois, il y a des Il y a un autre, c'est Amon. Effectivement, Amon, c'est vraiment le grand dieu du panthéon égyptien, celui qui a un peu tout créé au départ, un dieu qui d'ailleurs est un peu irreprésentable. C'est pour ça qu'il est représenté un peu comme un pharaon, si vous voulez. Parce que de toute façon, on ne peut pas imaginer qui il est. Alors pour l'imaginer quand même, on lui donne les frais d'un pharaon. Tout à l'heure, quand vous l'avez pris pour un pharaon, c'était pas faux, c'était un petit peu l'idée d'ailleurs. Hein. Puisqu'il n'est pas représentable, autant lui donner les traits d'un dieu sur terre, qui est pharaon. Ça roule. Hein. Donc Amon, c'est un peu le grand dieu. D'ailleurs, très souvent, on a son nom dans certains noms de pharaon, par exemple. Toutankhamon. Toutankhamon. Hein. Voilà. Donc Amon est un dieu fondamental. Donc là, vous avez Amon qui protège un pharaon. Vous avez un pharaon, alors vous le voyez peut-être pas très bien, hein, mais vous voyez peut-être là les deux pans de la tête de pharaon a disparu. Heureusement, son nom est marqué sur la sculpture. Qu'est-ce que vous voyez là sur les épaules de
les deux pans du Némès.
Voilà, les deux pans du Némès. Hein, il avait un Némès, comme la sculpture précédente. Ben, il reste plus que les deux pans sur ses épaules. Une idée peut-être de ce pharaon-là. Il y a beaucoup de solutions. Mais... Non. Ben, c'est plutôt Camon. C'est Amon qui protège Toutankhamon.
Ben, il n'a pas vraiment protégé, là.
Pas trop, non. Effectivement. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas vraiment protégé ? Alors, d'abord, il est mort jeune. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous voyez, là, sur la sculpture ?
Il a plus de tête.
Il a plus de tête.
Il est décapité.
Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez à dire de cette décapitation ?
Elle est volontaire ?
Elle est volontaire.
Ah, oui.
C'est-à-dire, c'est pas une sculpture qui est tombée puis qui s'est cassée. C'est une décapitation volontaire. Et qui est peut-être due à quoi ?
Parce que le successeur.
Peut-être due à son successeur, ou ses successeurs. Hein. C'est-à-dire que ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, c'est ça.
Alors, oui, ça rappelle par exemple la Révolution française, mais dans ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à l'Égypte ancienne, ça vous rappelle ?
La statue qui a changé.
Voilà, la statue qui est devenue de Thoutmesis Ramsès, vous vous rappelez, hein. C'est un peu la même chose, là, hein, sauf que là, ça passe par, non pas par la réhabilitation, ou la, mais voilà, c'est pas le recyclage, hein, mais la destruction. C'est-à-dire que là, on coupe la tête du jeune pharaon, Toutankhamon, pour des raisons, j'allais dire, de contestation de pouvoir, ou d'imposition du pouvoir par le nouveau pouvoir. Ok ? Bien. Toutankhamon... Vous voyez ces dates, hein, on est dans au début de la deuxième moitié du XIVe siècle. Vous le situez comment par rapport à un autre pharaon qu'on vient de voir ? Pardon ?
C'est pas Toutankhamon qui était le fils.
Absolument. Le père de Toutankhamon. Alors, tu sais, tout à l'heure, on a vu Amenophis III.
Ouais.
Hein, Amenophis III, avec sa femme, qui est la reine. Ils ont eu, notamment comme enfant, un pharaon qui est qui par rapport à Toutankhamon ? Alors, qui est donc le fils de Toutmosis, le père de Toutankhamon, autrement dit Toutankhamon, et le petit-fils de Toutmosis III.
Oui,
d'Amenophis III, pardon. Vous rappelez Amenophis, Amenhotep, hein, c'est le grand-père de Toutankhamon. Hein. Il y a Amenophis, Amenhotep III, un autre pharaon et Toutankhamon. D'accord ? Pas trop compliqué, ça. Hein.
Alors, Ramsès II, il se situe où ?
Pardon ?
Après.
Ramsès II, il est après.
C'est hein.
Ramsès II, il vient après. Ramsès II, il est à la fin du XIVe siècle avant Jésus-Christ. OK ? Bon, on va revenir peut-être là-dessus, mais on commence à mettre en place cette petite chronologie-là. Bien. Voilà un pharaon, ok. Qu'est-ce que vous auriez à dire ? Pas très compliqué, hein ?
Les épaules de déménageurs.
Voilà, des épaules de déménageurs. Alors là, vous voyez le pharaon, ça. Hein, ça.
Une taille très fine.
Voilà, ah oui, ah, la taille est fine. Oui, absolument. C'est le triangle, hein, vraiment. Hein. Donc taille fine, les épaules de déménageurs, hein, c'est... Un bel homme juvénile, si vous voulez.
Un peu raté sur les oreilles.
Pardon ?
Sur les oreilles.
Ah oui, les, ça c'est souvent.
C'est comme les masques, c'est
peut-être que le... Oui, voilà.
C'est à cause de la coiffe.
Voilà, on va dire que la coiffe qui s'appelle ?
Les
Némès. Peut-être fait cela. Qu'est-ce que vous voyez sur le Némès ?
Eh bien, le serpent.
Le serpent, le cobra, l'Uréus, hein, on en a parlé tout à l'heure. Ok. Et qu'est-ce que vous auriez à dire ? Alors, cette sculpture est fragmentaire, mais il est représenté comment, Pharaon, là ?
Il est vachement jeune, hein ?
Il est très jeune, oui, juvénile.
Il
était debout, absolument. Hein. Alors, les bras longs du corps, effectivement, mais il était debout, hein, sans donc dans une attitude marchande, marchante. Hein. Donc, vous avez vu tout à l'heure un pharaon assis, vous vous rappelez, de ce Amenophis Ramsès, hein, assis avec les mains sur les cuisses. Là, il est debout. Ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir déjà une petite idée de la typologie des représentations de pharaon. Hein. Il y a plusieurs manières de présenter pharaon. Il y a des règles, une typologie. On a vu des pharaons assis sur ce trône qui n'a pas l'air d'un trône. Mais voilà, un pharaon debout dans l'attitude de la marche. Okay ? Donc un pharaon très simple. Alors ça, c'est une sculpture qui est plus ancienne que les autres. Hein. On est là avec un pharaon qui est beaucoup moins célèbre, Amenemhat. Hein. On est là au XIXe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, un pharaon, finalement, j'allais dire, dans une posture qui est assez typique de ces pharaons verticaux et marchands. Bien, on continue.
Il y a le coagule, là, hein ?
Pardon ?
C'est l'urubu, là.
C'est
l'uréus. L'uréus, oui. L'uréus. Absolument, oui, l'uréus ou l'uraus. On peut dire plusieurs choses, hein. En tout cas, le serpent, voilà, le cobra, hein. Tout à fait. Il a alors l'uréus sur, au-dessus de la tête, oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre aussi ?
La coiffe.
Qu'est-ce que c'est que cette coiffe qui ressemble à un suppositoire ?
C'est la couronne de la haute Égypte.
Voilà, c'est la couronne de la haute Égypte, effectivement. Hein. Peut-être que, moi c'est pareil, je ne me rappelle jamais, sauf que la couronne de la haute Égypte, elle est haute. La couronne de la basse Égypte, elle est plus basse. Hein.
Voilà. Alors, elle est blanche et voilà. Rouge.
Exactement. La couronne de la haute Égypte, elle est blanche. La couronne de la basse Égypte, on en parlera tout à l'heure, elle est rouge. Hein. Voilà. Donc là, ce personnage a la couronne de la haute Égypte, c'est-à-dire la partie nord de l'Égypte. Voilà. Dont l'animal est quoi ?
Le vautour,
hein, alors que la basse Égypte, c'est le serpent. Alors ne vous étonnez pas s'il y a l'Uraus là, hein, on a des mélanges, hein, il n'y a pas la couronne de la haute Égypte avec le vautour, la couronne de la basse Égypte avec le serpent, il y a des mélanges, tout est possible. Hein, mais n'empêche qu'un des animaux est lié à l'un des territoires. Bien. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire sur cette tête ?
Il a les yeux bridés.
Oui, il a les yeux très, très, très fins. Ouais.
Il a fait de la boxe.
Ah, oula. Ça y est, ça recommence. Oh, c'est le deuxième coup aujourd'hui. Ça vous laisse réfléchir. Je ne sais pas pourquoi je... Pardon ?
Il a le nez cassé.
Il a le nez cassé, oui. Il a un côté du visage un peu plus abîmé que l'autre. Mais là, je l'ai mis de telle manière qu'on ne voit pas le côté abîmé. Alors, on va recommencer. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça fait ça. Ça ne le faisait pas les fois précédentes. Hein.
Non.
Bien, alors évidemment, je ne vois rien, mais... Voilà, ça y est, c'est bon. Sauf que ce n'est pas bon pour vous.
Ça vient.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça fait ça. Hein ? Bien. Je vais vous remettre la diapo. Comme ça, vous avez le temps de trouver ce qu'il y avait d'autre à dire. C'est bien.
Bon.
Voilà.
Les lèvres, elles sont plus...
C'est très martien.
Très martien, c'est vrai. Des lèvres assez charnues, pourrait-on dire, peut-être.
Oui. Des petites oreilles.
C'est pas un nubien ?
Je crois pas.
Des pharaons noirs ?
Des pharaons noirs ?
On dirait que c'est du granit.
C'est du granit, oui. Justement, dans ce côté matériel, moi, il y a deux choses qui me frappent. Quand on s'intéresse au côté matériel de cette sculpture. Alors, le premier, vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre compte, encore que, avec ce que vous voyez à droite, ça donne peut-être une idée.
Il y a une colonne, c'est ça ?
À droite, il y a une colonne, effectivement.
Pardon ?
Non. Mais peut-être que ça peut vous donner une idée.
C'est brillant.
Voilà, c'est d'une taille massive. Hein. C'est très, très grand. Hein. Ce que vous avez là... Il doit faire à peu près 1,50 m de haut. Hein.
Voilà. Ah ouais.
Et ça n'est que la tête
oui.
d'une sculpture.
Ah
Donc imaginez quelle taille ça faisait à l'origine. Hein, et une sculpture d'un seul tenant. Il n'est pas question de faire les bras, la tête, les pieds en autant de blocs différents. Non.
Dans
un bloc complet, voilà, dans la masse. Faisait le personnage complet. Hein. Donc on est là devant une pièce monumentale, colossale.
À l'entrée d'un temple.
Vraisemblablement à l'entrée d'un temple, effectivement.
Hein. La barbe a sauté.
Oui, il y avait une barbe, elle n'est plus là. Et puis dans la matière, il y a aussi quelque chose qui me frappe peut-être.
Le polissage.
Le granit
n'est pas toujours facile à polir.
Non, absolument. Or là, c'est poli. Vous voyez, c'est un miroir, quoi. C'est vraiment extrêmement poli. Donc on est là devant une pièce qui est à la fois monumentale. Cette tête, elle fait à peu près ma taille. Hein. Et c'est donc absolument colossal. Et en plus, c'est dans un granit extrêmement poli. Une idée du pharaon ? Non, difficile ça. Hein. Encore Ménéphis III. Hein. Encore lui. Hein. Bon. Encore Ménéphis III. Donc là, vous avez la tête d'une statue énorme hein, de Ménéphis III, ce qui vous montre encore une fois qu'en Égypte, souvent, on n'y va pas avec le dos des pierres. Enfin, on fait des. Bon, de toute façon, on sait bien, hein, l'obélisque de la Concorde, c'est un monolithe aussi. Hein, donc encore plus haut. Hein. Voilà, donc cette espèce de côté énorme est tout à fait très, très représentatif. Hein. De la monumentalité de cette culture.
C'est encore un pharaon, mais il n'a pas la même image.
Ouais. Oui, c'est... Qu'est-ce que vous...
Alors, c'est peut-être un Nubien, celui-là.
Celui-là sera un Nubien ?
Ouais, peut-être, je sais pas.
Peut-être.
Avec des pigeons qui sont passés là.
Avec des...
Des pigeons.
Ce serait pas une dame, plutôt.
Ah, ce serait une dame ?
Non, la coiffe, c'est une coiffe de monsieur. Non,
on a des dames hein, qui ont cette coiffe.
Ah ouais,
guerrier,
ça.
Guerrier. Vous n'avez pas tort, hein, c'est une coiffe différente. C'est pas le Némès,
hein.
C'est pas la coiffe de l'Égypte, c'est pas la coiffe de la basse Égypte, c'est donc une autre coiffe. Alors je ne me rappelle jamais du nom, que je regardais, mais j'ai déjà oublié. C'est ça, exactement. C'est le Képhres. Voilà. Je ne me rappelle jamais de ce nom. Voilà.
Beaucoup plus petite.
Oui, beaucoup plus petite, oui. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a par contre une chose que l'on retrouve souvent sur ces coiffes, quelle qu'elle soit.
Le cobra, l'Ureus.
Hein, vous le retrouvez. Hein, voilà. Bien. Cette coiffe, alors c'est intéressant, vous disiez...
On a l'impression qu'il y a deux matériaux.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous donne... C'est le même, hein, mais qu'est-ce qui vous donne l'impression ?
La couleur.
C'est la couleur, mais pourtant, c'est le même bloc de pierre.
Il y a un polissage qui est différent.
Voilà. On a une partie polie, une partie qui n'est pas polie, ou du moins qui est travaillée d'une autre manière. Le visage est poli, alors toute la partie supérieure est moins, si vous voulez, hein, est travaillée d'une manière différente, d'où cette impression que l'on a. Hein. Alors, c'est intéressant parce que cette coiffe, hein, et vous l'avez finalement dit tout à l'heure, elle correspond à quoi ? C'est pas le Némès, c'est pas la couronne de la Haute ou de la Basse-Égypte, ou les deux, parce que quelquefois on a également les deux, ensemble, c'est une couronne qui correspondra à quoi ?
C'est le pharaon en chef de guerre ?
C'est ça, c'est le pharaon en chef de guerre. Hein. Cette coiffe qui s'appelle donc le Képhres, c'est ça ?
Le Képhres.
Voilà, je ne m'en rappelle jamais, c'est
comme
ça.
Le képi,
pardon ?
C'est comme le képi.
C'est ça, c'est une sorte de casque, si vous voulez. Hein. Et en fait, le pharaon guerrier est souvent représenté de cette manière-là. Et quand il est, par exemple, quand il y a des scènes de guerre, hein, je pense à un relief avec Ramsès sur un char, etc., il est représenté avec ça, mais dans des sculptures, dans des statues où il est seul, hein, comme ici, même s'il n'est plus que la tête, c'est une manière d'évoquer le pharaon dans cette dimension-là. Ce n'est pas comme notre pharaon, calme et posé, et à la fois adorateur et adoré, qu'on a vu tout à l'heure, hein, assis, vous rappelez, sur sa caisse. Hein. Là, on a un pharaon qui incarne la soumission, quelque part. Hein. C'est le pharaon qui... c'est le chef de guerre. Hein. Une idée de ce pharaon-là, de son nom, de qui s'agirait-il ?
Aménophis.
Comme les autres, on est bien d'accord.
Ah oui. Hein.
Voilà.
C'était mégalo celui-là. Hein.
Pardon ?
C'était mégalo ou
c'était. Je crois que. Comment vous dire ? Je crois que c'est une chose qui est assez fréquente dans le, je dirais, l'exercice du pouvoir. Hein. On aime à se représenter. On pourrait faire la même chose sur Napoléon ou
Louis XIV.
Ou voilà. Là, j'ai probé toute une série de choses autour des 1903, ce que je trouve assez intéressant de... Comment dire, plutôt que d'aller de montrer des pharaons de tout genre. Hein. Alors, il n'y a pas que lui, d'ailleurs. On en a vu d'autres. Hein. Mais un peu de se polariser autour, aussi parce que c'est un grand moment de la culture égyptienne, et puis un moment qui est autour de Amenophis, Amenhotep, autour de son petit-fils, Toutankhamon. Puis il y a quelque chose qui se passe entre les deux, dont on parlera. C'est un moment quand même très, très important de l'Égypte antique. Et je trouvais bien, plutôt que d'aller dans tous les sens, de voir des tas de pharaons, que souvent on ne connaît absolument pas, hein, d'un peu se focaliser, vous voyez, pour au moins avoir ce repère-là au XIVe siècle avant notre ère. Hein. Mais c'est vrai que, bon, voilà, le pharaon n'hésite pas à se représenter. De toute façon, c'est un dieu. Hein. Donc, quand on est un dieu, on bétonne. Hein.
C'est les pieds de l'autre.
Alors, ce que vous avez là, c'est peut-être, effectivement, sont les pieds, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait les pieds de l'autre dont vous avez vu la tête. Mais c'est les pieds d'une statue équivalente à ce que vous avez vu là. Ces pieds-là viennent du même endroit que la tête que vous avez vue tout à l'heure. C'est celle avec la couronne de la Haute-Égypte. C'est tout aussi colossal, et c'est d'une statue équivalente, mais ce n'est pas la même, mais c'est sur le même site.
Le fameux pied égyptien.
Pardon ?
Il n'y a pas quelque chose avec le pied égyptien
qui est carré ?
La taille des orteils.
Oui, c'est le petit orteil dépasse le pouce.
Ah, alors, c'est plutôt le pied grec, hein, où le deuxième orteil après le pouce donc, est plus long que les autres dans l'idéal.
Oui, c'est grec.
Alors, qu'est-ce que vous suggère aussi ce bloc que vous avez là ? Des choses qu'on a peut-être déjà vues, mais encore une fois, on se répète, mais c'est en répétant que ça rentre.
Il y a les statues, des...
Oui.
Des
alors, il y a des hiéroglyphes, effectivement. Oui.
C'est pas
des hiéroglyphes. Vous les devinez, c'est dur. Hein.
C'est une frise.
C'est une frise répétitive, avec quelque chose que vous devinez.
Une silhouette.
Oui, il y a des silhouettes, les unes et les autres, de personnages qui sont comme ça, qui sont... Agenouillés, je ne vais pas m'agenouiller, mais...
Prisonniers.
Sont des prisonniers. C'est-à-dire, vous avez là, côte à côte, toute une série de figures, bras en arrière, entravées, qui sont évidemment des prisonniers. Ça évoque quoi ?
La guerre,
et puis...
Le vainqueur.
Voilà, c'est ça, l'idée du vainqueur. Hein. C'est-à-dire qu'on comprend assez bien que le pharaon, il domine les peuples qui sont ici représentés, et nommés souvent. Hein. Bon, puis c'est une pièce colossale... Hein, avec ce rôle du colossal dans la culture égyptienne et dans la présentation du pouvoir de Pharaon. Okay, il y a peut-être aussi autre chose que vous pouvez, si vous regardez bien, qui se voit assez bien quand on le sait, moins bien si on ne sait pas, mais qui nous rappellera des choses qu'on a déjà évoquées et qui apparaît devant les pieds, d'ailleurs. Je vous mets sur la voie.
Il y a des noms, il y a des hiéroglyphes.
Il y a des hiéroglyphes, mais...
Ça a été martelé.
Oui. Si vous regardez là devant, vous voyez peut-être que le niveau ici est plus bas que ça. C'est-à-dire qu'on sent que là, pouf, il y a une sorte de décalage. Pour la même raison que tout à l'heure, qu'est-ce qui a dû se passer ? Et bien voilà. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a réutilisé cette sculpture pour en faire un autre pharaon. Et on a ravalé l'inscription antérieure et on en fait une autre. Donc cette espèce de recyclage, il est vraiment très très fréquent. Donc, alors là, je ne sais pas, je ne l'ai pas marqué. Je ne sais pas quel est le... c'est toujours un Amenophis III. Hein.
Celui qui était avant ?
Pardon ?
Celui qui était avant ?
Oui, ben, on a vu effectivement pas mal de fois Amenophis III. Et puisque c'est les pieds d'une statue équivalente de celui dont on a vu la tête, qui était déjà Amenophis III, vous allez connaître des pieds à la tête, Amenophis III. Hein. Voilà, c'est le but un peu. Hein. Voilà. En tout cas, cette statue a été recyclé pour en faire un autre pharaon, je ne sais plus lequel, j'aurais dû le marquer, ce que je n'ai pas. Alors, la fée, c'est pas très très...
Ramsès II.
Peut-être, je sais plus. J'aurais dû le marquer.
Un
sphinx. Qu'est-ce que c'est qu'un sphinx ?
C'est
moitié pharaon, moitié animal, absolument. La tête est celle d'un pharaon, le reste est celle d'un animal. Quel animal ?
Un lion.
Hein. Un sphinx, c'est un lion à tête de pharaon. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à me dire pour me décrire un peu cette tête de pharaon?
Ils n'ont pas de chance avec leur nez.
Non, ça c'est souvent le cas. Mais c'est le cas du fameux grand pharaon aussi. Hein.
Oui.
Vous avez lu Astérix, je ne viens pas. Vous savez pourquoi.
Hein. On sait pourquoi.
Bien. Oui, alors, décrivez-moi un peu la tête de ce pharaon.
Il a
la coiffe qui s'appelle le Némès. Qu'est-ce qu'il y a sur le Némès?
Le cobra.
Le cobra Lureus. Et puis
il a la barbe.
Qui est une barbe
postiche,
bien sûr.
Des pharaons.
Et voilà, ben, des pharaons, donc des mortels, je dirais, enfin des humains. Parce que les pharaons sont immortels, bien droite, et pas celle des dieux, hein, tout à fait. Pourquoi mettre la tête d'un pharaon sur un lion?
La puissance.
Voilà, effectivement, le lion, c'est à la fois un animal qui est de la puissance, absolument, et puis c'est une divinité. De toute façon, chez les Égyptiens, tout est potentiellement un élément du divin. Hein. Jusqu'au bout, rappelez-vous, hein, dans le désert, qui sont roulés par les scarabées, qui évoquent Ré, le soleil. Hein. Donc, chez les Égyptiens, tout est un élément du divin. Un rocher est un élément du divin, le sable aussi, un animal, tout est un élément du divin. Le monde n'est que une série d'éléments divins, une série d'hiéroglyphes qui s'assemblent pour faire le monde. Bien. On peut très bien ajouter la tête d'un pharaon sur un lion et en faire une sorte de divinité léonine. Tout ça ne pose pas de problème. Hein. Bon, ce très gros sphinx, non, ça change. On est là en fait dans des périodes beaucoup plus anciennes. Il est très ancien, mais on n'arrive pas à savoir exactement à quelle époque il a été réalisé. Ça m'intéressait de lire ce qu'on peut lire autour de lui. En fait, on n'a pas de date absolument précise. Vous voyez qu'on navigue sur 1000 ans.
Hein.
Voilà. Donc c'est large. Hein. Voilà. Donc c'est une pièce vraiment, vraiment intéressante. Voilà.
On retrouve la position
tout à l'heure. Absolument.
Ça, c'est
une femme.
C'est
une femme?
Oui,
apparemment.
Elle a une robe et
un dessin. Ouais. Elle a effectivement des seins, une robe, donc c'est une femme. C'est donc une femme?
Une reine.
C'est une reine. Hein, c'est une reine.
Elle a un collier aussi.
Elle a un collier. Donc, elle a d'ailleurs.
L'Uréus
sur sa coiffe. Voilà. Donc, tout ça pour dire, mais vous le saviez, puisque la première pièce qu'on a regardée vont très bien, qu'on représente Pharaon, mais on représente Pharaon aussi, hein, la reine. Hein. Donc, ça, c'est important. On avait noté, vous rappelez la dernière fois, quand on a parlé du mobilier funéraire, hein, vous vous rappelez de ces scènes représentant des couples, monsieur, madame, vous vous rappelez, hein. Voilà. Hein, donc, l'Antiquité égyptienne, espèce de nécessité familiale, monsieur, madame, etc., est très très importante. Et elle existe aussi au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau du roi et de la reine. Hein. Voilà. Ouais. Reine ou reine, ne me demandez pas de qui elle est l'épouse, je ne sais pas.
C'est
Akhenaton.
C'est chinois.
C'est chinois. Quand j'ai passé cette diapo, tout le monde a fait « Ouh, pourquoi ?»
On dirait
quelque chose de moderne, un Picasso. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on dirait un Picasso, quelque chose de moderne, là?
Parce qu'il y a des blocs, comme on dirait, qui sont collés entre eux.
Alors, c'est vrai, parce que cette sculpture est une sculpture qui a été brisée. Hein. Une sculpture qui a été cassée, et donc qui a été recomposée, recollée à partir de morceaux. Mais à l'origine, ça faisait un monolithe. Hein. C'était un monolithe. Mais c'est tombé, c'est cassé, et voilà. Hein.
Le visage est longiligne alors que les précédents étaient beaucoup plus longs.
Absolument. Ah, le visage est très longiligne. Regardez cet immense nez. Alors que les pharaons d'avant étaient évidemment beaucoup plus ronds.
Le menton, c'est
le style
d'Armagnac,
ça, avec
un
grand visage et puis un gros ventre.
Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle effectivement le style amarnien. Alors on va peut-être un peu dire qu'il en est. Hein. Vous parliez effectivement de visage émacié, très différent, de gros ventre, un peu bedonnant parfois même. Hein. Donc effectivement, vous avez très bien vu la différence hein, de style, c'est votre « ouh » du départ le montre très bien, entre ce personnage et les autres. Hein. Alors, vous avez dit, certains d'entre vous ont dit, c'est Akhenaton. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Voilà. Akhenaton, son vrai nom, c'est Amenophis IV. Tiens. Ça vous dit pas quelque chose, Amenophis IV?
C'est le fils.
C'est celui qui est entre Aménophis 3 et tout en
4. Exactement. C'est-à-dire qu'on a Aménophis 3, Aménophis 4, qu'on peut appeler également Akhenaton, et après tout en 4. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que Aménophis 4, Aménothèpe 4, si vous préférez, on l'appelle aussi Akhenaton ?
Parce qu'il a changé
de nom, mais il a changé de nom pourquoi d'ailleurs ? Voilà, il a effectivement voulu complètement changer la religion égyptienne. Qu'est-ce qu'il a voulu faire en deux mots ?
Monothéisme.
Voilà, il a voulu effectivement imposer un monothéisme. Et pour quelle raison ? Soudain, il a été touché par une grâce céleste qui fait que devant ce panthéon égyptien pléthorique hein, que l'on a déjà évoqué, il s'est dit, allez, on élimine tout ça et on met un seul dieu. Lequel, d'ailleurs ?
Aton.
Aton, voilà. Hein, ce qui s'appelle, il se fait appeler Akhenaton. Hein. Donc, il va imposer un dieu nouveau qui s'appelle Aton, qui remplace donc qui ? Alors, qui remplace Amon, hein, Amon, ou Amon-Ré, est donc remplacé par Aton, et tous les dieux de l'Égypte ancienne sont finalement plus ou moins balayés pour laisser la place à un dieu unique, Aton. C'est pour ça qu'il s'appelle, qu'il se fait appeler, non pas Aménophis IV, mais Akhenaton. Ok. Tout ça va s'accompagner de différentes choses.
Il va construire une ville.
Oui, il va construire une nouvelle capitale. Qui d'ailleurs s'appelle Akhetaton. Hein, non pas Akhenaton, mais Akhetaton. Donc il fait effectivement construire une nouvelle capitale où il installe son pouvoir, où il installe un temple à Aton. Hein, voilà. Pourquoi fait-il tout ça ? Encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il est touché par la grâce soudaine ? Il a une révélation, un jour en rentrant dans le temple, il se dit ça y est, c'est Aton. Pour marquer sa période, il y a peut-être une dimension mégalomane. Oui, une volonté de marquer sa période, une volonté de...
Qui a gâché le pouvoir des prêtres ?
Voilà. Il y a visiblement une raison tout à fait politique, qui est que le pouvoir des prêtres d'Amon, en particulier à Thèbes, hein, qui est une des grandes cités sacrées, on va dire, de l'Égypte, hein, est tel, et concurrence tellement le pouvoir de Pharaon, que le seul moyen de couper court à ça, à cette concurrence, c'est de tout changer. Hein. Et donc tout changer, ça va être... Ben, j'allais dire, de décapiter la religion, ça permet de décapiter les prêtres, tout simplement. Le clergé a pris trop d'importance. Hein. Donc, voilà la raison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce changement, on change de dieu, on change de capital, va s'accompagner d'un changement de style dans l'Égypte antique, et ça donne ça. Hein. On pourrait caractériser comment ce nouveau style ? Pardon ? Oui, une sorte de sobriété des pures. Bon, on a vu quand même qu'avant, c'était assez sobre et pur et aussi. Mais effectivement, il y a peut-être une plus grande... Je ne sais pas si je dirais le terme sobriété ou épure.
Non, il était comme ça. Je
veux dire. Oui,
alors,
c'est
voilà.
Une représentation.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il était comme ça. C'est-à-dire qu'il y a là... Et justement, puisqu'il était comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Plus naturaliste.
Plus naturaliste, voilà. Il y a une sorte de réalisme, et de réalisme un peu brutal, vous voyez. C'est-à-dire que... il a une espèce de grand nez, il a un visage un peu émacié, il est comme ça. Alors que dans les périodes antérieures, on idéalisait Pharaon, là, on en fait une sorte d'ascète parce qu'il l'est, tout simplement. Hein. Et quelqu'un disait tout à l'heure, souvent d'ailleurs, les personnages sont bedonnants, c'est vrai. Quand on voit des représentations de Akhenaton, on voit qu'il y a un petit ventre, si vous voulez. Hein. Les autres, ils n'en avaient pas. Hein. Les autres, c'était tous des athlètes parfaits, même à 100 ans, si vous voulez, ils sont tous impeccables. Hein. Là, on ne fait pas ça, on représente le roi tel qu'il est. Hein. On n'a plus caché ça. Alors, on garde quand même des éléments de la culture traditionnelle. Hein. Vous remarquez qu'il a le flagellum et le sceptre crochet, hein, tout ça. Voilà,
hein.
Et la barre postiche, voilà. Hein. Il avait un émès, alors on ne le voit pas là parce que c'est cassé, mais voilà. Donc il y avait tout ça. Mais ça change quand même beaucoup. Hein. Voilà.
Donc, effectivement. On a joué aussi sur le fond et la couleur du fond, qui amplifie cette impression de changement.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc là, on a quelque chose de tout à fait nouveau, hein, c'est-à-dire cet Aménophis IV ou cet Akhenaton, hein, qui est effectivement le chaînon qui nous manquait en Aménophis III et tout en Khamon, puisque Akhenaton est le père de toute une série d'enfants, notamment tout en Khamon. Hein. Voilà.
Et Et c'est Toutankhamon, il a gardé le monothéisme ou il a...
Non, ce qui s'est passé, c'est que quand Toutankhamon est monté sur le trône, Toutankhamon qui est le énième enfant, d'ailleurs, Toutankhamon... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'Akhenaton était le mari de Néfertiti. Et Toutankhamon est le fils d'Akhenaton, mais pas le fils de Néfertiti. Parce que Akhenaton a eu plusieurs épouses, et Toutankhamon est le fils d'une autre épouse que Néfertiti. D'accord ? D'où le fait que, si vous voulez, il est bel et bien le fils d'Akhenaton, par contre. Hein. Et après la mort d'Anéphis IV, autrement dit d'Akhenaton, le clergé va reprendre le pouvoir, si j'ose dire, et va essayer de... va en fait phagocyter Toutankhamon, qui était très jeune, qui est, je crois, monté sur le pouvoir à 14 ans, plus que ça. Enfin. Et donc, il était très très jeune... Il n'a pas eu du tout la possibilité de réagir. Hein. Voilà. Donc, le clergé a remis les choses en place et a d'ailleurs beaucoup éliminé de représentations d'Anéphis IV à Kenaton. Voilà, elles ont été souvent cassées, abîmées, etc. On a essayé de gommer ce passage. D'ailleurs, la capitale a été abandonnée.
Voilà. Mais est-ce que c'est contemporain de Moïse,
ça ? Ouf ! Alors là, je sors mon joker.
Ben moi aussi.
Ouais.
Mais pourquoi ? La question ?
Est-ce que Akhenaton est contemporain de Moïse ? Est contemporain de Moïse ? Je ne sais pas. Ce que je voulais... je ne sais pas vous dire. Pas vous dire du tout. C'est une question intéressante. Hein. Je voulais vous montrer ça parce que, voilà, vous avez à gauche... notre Akhenaton, à droite, vous avez Ramsès, hein, vous connaissez un des colosses du temple d'Abou Simbel, et vous voyez que c'est vraiment très, très différent quand même.
Ah ouais.
Hein. À droite, vous avez un Ramsès qui rentre à nouveau dans la logique égyptienne, un roi idéalisé, parfait, très bien, tout va bien, etc. L'espèce d'idéalisation est à l'œuvre, alors qu'à gauche, vous avez ben, ce qui fait très typiquement, hein, ce nouveau style qui est celui d'Akhenaton. Alors, on va terminer avec quelqu'un. On a encore un petit quart d'heure. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez là ?
Un profil.
Un œil d'Horus.
Une fresque.
Oui, alors on pourrait presque voir un œil d'Horus, ouais. Mais c'est un personnage de profil avant tout. Hein. Un morceau de fresque ?
C'est une peinture.
Une peinture, alors c'est une peinture. Donc ce sera un morceau de peinture murale.
Oui.
Ouais, ça vous va, ça ?
Oui.
Qui représente quoi ?
Une femme.
Oh,
oui. Il y a des boucles d'oreilles, non ?
Oh, oui, ça, oui. Les hommes ont... Oui, hein. Oui, c'est vrai aujourd'hui encore. Hein.
Bon, pardon, je retire.
Non, mais un côté féminin.
Oui. Alors, quelquefois, les pharaons peuvent être un peu androgynes. Hein.
Ah oui,
parce
qu'avec le col et tout. Hein.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Décrivez-moi ce que vous voyez.
Un profil.
Un profil, mais on voit
l'autre chose.
Oui, mais encore.
C'est la coiffe.
La coiffe, oui.
Je
ne
sais pas. On voit pas
il est le profil. Tout, ouais. Mais quand même, on voit des choses. Oui, mais on voit quand même des choses.
Il y a un bout de cobra.
Oui, il y a sans doute un bout de cobra. Voilà, ça c'est sans doute le cobra. Bon, vous voyez quand même son corps qui se... Hein,
pour avoir l'imagination.
Oh ben non, regardez là. Vous voyez le corps du cobra, et là son plastron qui s'évase. Hein. Bon non, il est vide le cobra là. Hein. Non, c'est bien visé. Alors cette coiffe à votre avis c'est laquelle ?
Ça ressemble au képresh.
Voilà, c'est sans doute le képresh. Hein. C'est pas le mémès. Hein. Vous voyez ce que c'est qu'un mémès ? Le mémès, on verrait bien. On voit des tas de choses. Hein. Ouais. Les mèches, on verrait les pans qu'ils ont. Ouais. C'est pas le grand d'Aotégie, pas le grand d'Aotégie. Après, ils aient le donc, cette couronne qui évoque l'idée du guerrier, du conquérant, du puissant. Hein. Voilà. Donc, on aurait là un morceau de peinture murale. Moi, je trouve que pour un morceau de peinture murale, c'est pas super bien terminé. Vous l'avez vous-même dit, vous l'avez dit, on voit rien, etc. Je suis pas d'accord avec vous, d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même pas super terminé, si j'ose dire. Pourquoi ?
Pas eu le temps.
Bon, c'est un morceau de tombeau. Genre.
Un morceau de tombeau, c'est un morceau un peu abîmé.
Ouais.
C'est l'esquisse.
En fait, c'est une esquisse.
Ah,
Ah oui, sur un ostracode.
Exactement. C'est ce qu'on appelle un ostracon. Un ostracon, c'est un terme grec, ostracon, qui veut dire quoi?
Ça
ne
veut pas dire coquille d'huître.
C'est bien possible. Je ne sais pas, mais c'est possible.
C'est tout petit.
Alors, un ostracon, c'est quelque chose qui est petit. C'est un morceau de pierre ou un morceau de vase sur lequel le peintre fait son esquisse. Parce que c'est bien gentil que vous êtes dans la vallée des rois et que vous avez à peindre tout un tombeau. Bon, de temps en temps, c'est bien de faire une petite esquisse, quoi, de faire un brouillon. Bon, vous n'avez pas forcément de votre ramette de feuilles de papier pour faire votre brouillon. Ben, vous prenez soit un morceau de céramique, soit un éclat de calcaire, puis vous le faites. Et on a trouvé, notamment dans ce lieu qui s'appelle Der El Medinet, dont je ne sais pas, vous savez, le village d'artisans près de la vallée des rois. Oui. On a retrouvé comme ça, notamment une fosse, place d'Ostraca, un ostracon des Ostraca, qui donc montre une espèce d'esquisse des artisans. Hein. Ben, vous avez le cas ici. OK? Hein. On a là une esquisse pour un portrait d'un pharaon qui est peut-être d'ailleurs Ramsès VI. Parce que Ramsès VI était un pharaon un peu empâté, si vous voulez. Alors dans les portraits qu'on a de lui, où il est toujours très typé, il est quand même un peu... Là, vous voyez que le cou, il y a des petits plis, etc. On ouais. sent que c'est un pharaon un petit peu... Voilà, empâté. Hein. Voilà. Donc c'est un ostracon que nous avons.
Ah, c'est beau, ça.
Ouais.
C'est du béton.
Ah, bah, c'est marbre. Là, c'est marbre.
Voilà.
Ah, il tient mal.
Donc là, vous avez effectivement donc un pharaon.
Un pharaon. Oui.
Qui a quoi comme sur la tête?
Le
képrèche. Sur le képrèche, il y a
Rhéus.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Il présente
Voilà, il présente une statuette de marbre. Matt, vous la reconnaissez, on l'a déjà vu la dernière fois. Voilà. Matt, elle est toujours comme ça, assise, accroupie, pourrait-on dire, voilà, avec la plume sur la tête. Hein. Et je vais dire, c'est une manière à la fois. Qu'est-ce qu'il en fait, sa Matt, là?
La montre.
Oui.
Il la regarde.
Il l'offre. Voilà. Hein. Ça, là, c'est un autre type de représentation de pharaon. Il l'offre. Hein. Il offre Matt. Ce que dit, on sait que, quelque part, il se l'approprie. Hein. C'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Le pharaon, à la fois, il prie et il est prié, entre guillemets. Hein. Ben là, il offre, mais ce qui veut dire qu'il offre ce qu'il a. Donc lui-même est marat, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc on a une très belle représentation.
Or et argent.
En fait, c'est argent avec des plaquages d'or, si vous voulez.
C'est beau, ça, ouais.
C'est beau, hein. Voilà, très belle représentation.
Alors, ça, c'est sur un mur.
Oui, on a un bas-relief qui vient avec une paroi. Hein. Paroi qui était dans quoi, à votre avis?
Dans un
tombeau. Qu'est-ce que vous le faites dire?
Parce
qu'on
a la table avec les offrandes.
Voilà, il y a une table. Vous rappelez cette table, on l'a vu la dernière fois. Hein.
Voilà.
Avec les offrandes. Et qu'est-ce que vous voyez comme offrande? C'est vraiment des offrandes?
C'est du pain.
Alors, c'est effectivement un pain coupé en tranches. Vous savez, on l'a déjà vu la dernière fois.
C'est pour se nourrir dans le glas.
Voilà, oui, voilà. C'est pour se nourrir dans le glas. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est pas du pain qu'elle offre. Hein. C'est du pain qu'elle s'offre, si j'ose dire, hein, ouais. Parce qu'il faut bien, dans l'au-delà, qu'elle ait ce qu'il faut. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre, autrement?
Des
hiéroglyphes. Le reste, c'est hiéroglyphes. C'est bien assez amusant, parce que là, il y a tellement d'hiéroglyphes qu'on ne sait plus très bien où commence la figuration et où finit l'hiéroglyphe.
C'est très fin.
Hein.
Oh, ben, c'est joli, hein.
C'est très beau, très beau. Ça vient d'un tombeau. Et alors, la figure que vous voyez là... C'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette série jolie. C'est une princesse. Hein. Voilà. Parce qu'évidemment, le pharaon, la reine, il meurt aussi. Hein. Voilà. Donc, vous avez également des représentations de pharaons dans le domaine funéraire. Un peu l'équivalent de ce qu'on en a vu la dernière fois, mais pour d'autres que pharaons. Hein. C'est une princesse. Ben, on ne pourrait pas forcément savoir s'il n'y avait pas tous les hiéroglyphes autour. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a une sorte de concomitance avec les scènes équivalentes qu'on a pu voir la dernière fois. un pharaon avec son Némès, Némès, N-E-M-E-S, avec sur le Némès
l'Urus,
comme d'habitude.
Le Pagne.
Le Pagne. Qu'est-ce qui vous inspire ?
Il est jeune.
Il n'a pas la barbe.
Il n'a pas de barbe.
Ah, il a un petit sourire.
Il est
assez jovial.
Il est très jovial.
Il est content
de lui. Ouais. Oui, ça va.
Chic.
Il vous inspire des choses par rapport à ce qu'on a pu voir ?
Il ne donne pas la présence de la puissance.
Oui, il donne pas la même impression, il me semble aussi, hein, de puissance un peu. Alors, je veux dire que quand on voit ça et tous les pharaons qu'on a vus, y compris Akhenaton, on est devant quelque chose d'un peu plus
léger.
Léger. Voilà. Pardon ?
Convivial.
Convivial. Léger, convivial.
Hein. Il met moins la distance.
C'est ça. À votre avis, pourquoi ?
Parce qu'il est tardif.
Parce qu'il est tardif. Et quand vous dites qu'il est tardif, il date de quand ?
Après Jésus-Christ.
Alors, c'est encore avant, mais à l'époque où l'Égypte, c'est quoi ?
Dans les Romains.
Alors là c'est un peu avant, enfin je crois, je vais regarder parce que j'espère que je ne me trompe pas. Je crois que c'est encore à l'époque grecque. Hein. Enfin, de toute façon, c'est déjà à l'époque romaine. Hein. Mais c'est quand même à un moment, parce que vous rappelez que Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ, hein, a conquis une grande partie de l'Est du bassin méditerranéen. Hein.
Jusqu'aux
Indes. Et jusqu'à l'Inde. Et après la mort d'Alexandre, vous savez que ces généraux, les Diadoques, vont se partager hein, l'empire d'Alexandre. Et c'est une dynastie qu'on appelle celle des Ptolémées qui va désormais régner sur l'Égypte, et ça jusqu'à l'époque romaine. Hein. Et d'ailleurs, Cléopâtre, la fameuse, il y en a eu plein de Cléopâtre, mais la fameuse, celle avec le nez, celle qui a été amoureuse de César, etc., c'est justement une Ptolémée. Hein. Et là, vous avez un roi ptolémaïque, un roi de cette dynastie des Ptolémées, c'est-à-dire un roi hellénistique, si vous voulez. Hein, même si on est au 1er siècle, c'est-à-dire à l'époque romaine, mais où l'Égypte est déjà très hellénisée. OK ? D'accord ? Et alors, je crois que vous avez bien vu, effectivement, hein, sans que je vous le dise, hein, la différence hein, entre ça et, par exemple, le pharaon beaucoup plus ancien qu'on a vu tout à l'heure. Il se ressemble quelque part. Hein, Némès, Uréus, Torsonné, etc. Mais je crois que vous avez bien vu qu'on avait avec celui de gauche, qui est tardif, qui reprend les codes anciens, mais un côté plus proche, plus léger, entre guillemets, que le dieu que l'on vénère à travers l'image de Pharaon.
C'est peut-être un vrai portrait.
Alors, oui, il y a une dimension. Oui, il y a une dimension vériste, et puis une dimension plus, je vais presque dire, plus primesautière, qui tient un fil. Hein. C'est même quelquefois dur à décrire. Hein. Mais on sent qu'on est, dans la sculpture de gauche, quelque chose qui est à la fois pareil et déjà différent.
Hein. Mais enfin, il ne porte pas l'Égypte de la même façon. C'est-à-dire qu'on est à une époque où on a conquis... L'Égypte a été conquise.
Oui, ah oui absolument, oui. Oui.
Donc, d'où oui. Le côté primesautier.
Oui, alors ce qu'il veut dire, c'est que les Ptolémées, enfin, Alexandre, les Grecs, quoi, ont conquis l'Égypte, effectivement. L'Égypte devient donc un élément de ce monde hellénistique. Les Ptolémées vont prendre le poids en Égypte. Donc, quelque part, vous savez, c'est ce qu'a fait finalement César puis Auguste en Gaule. Quoi, hein. Ils vont essayer de se mettre dans la tradition. Et ce même dans la tradition égyptienne qui avait plusieurs millénaires, c'était devenir un nouveau pharaon. Il fallait que la famille Ptolémée reprenne les us et coutumes des pharaons antiques. Hein. Et il fallait donc qu'ils se remettent dans le moule, si j'ose dire. Hein. Donc effectivement, les Ptolémées ont repris toutes les habitudes, tout en étant en même temps complètement nouveaux. Hein. Voilà. Il y a encore une ou deux choses, peut-être. Il y en a deux.
C'est là que... triade.
Une triade. Bon, alors là, c'est tout chausse, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? On commence par la droite, tiens.
À droite.
Ou alors au centre. On commence par le centre.
Osiris
au centre, ça vous le reconnaissez, hein. Osiris, on l'a vu 5000 fois, vous connaissez Osiris, qu'est-ce qui vous montre que c'est Osiris ?
Sa mitre et ses deux prunes.
Sa quoi, pardon ?
La mitre avec les deux plumes.
Alors, cette mitre qui est effectivement la coiffe de la haute Égypte, hein, avec les deux, voilà, avec les deux plumes latérales, ok, un Uréus au centre, on a l'habitude, oui, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui vraiment vous montre que c'est Osiris et pas un autre ?
Les deux
Il est momiforme. Il est momiforme, donc ça, ce personnage avec seul le visage et les mains est momiforme, et cette coiffe, c'est Osiris. Hein. Osiris, en même temps, il est pharaon, qu'est-ce qu'il vous le montre ? Voilà, il tient le fameux sceptre recourbé et le flagellum. C'est un pharaon, c'est quelque part le premier pharaon. Hein. Bien. Donc Osiris au centre, pas de problème. À droite, qu'est-ce que vous voyez à droite ?
Horus, non ?
Horus. Pourquoi Horus à côté de Osiris ? C'est son fils, c'est normal. Qu'est-ce qui vous montre que c'est Horus ? Il a la tête de
Faucon.
Donc c'est Horus. Pas de problème, le fils d'Osiris. Et puis à gauche,
un pharaon.
Hein. Vous voyez un pharaon qui a le némès, comme d'ailleurs Horus. Enfin non, Horus, il a plutôt une perruque tripartite. Hein. Alors que le pharaon gauche, il a le némès. Et le némès, c'est Cureus. Hein,
il est au-dessus.
Bien. Et puis alors, au-dessus, l'un comme l'autre ont
le
Psent. Alors qu'est-ce que c'est que le Psent ?
Deux couronnes ensemble.
Voilà, les deux couronnes, mais quelles deux couronnes ?
Haute
et basse Égypte. Donc vous reconnaissez la couronne de Haute Égypte, hein, celle qui est haute et blanche, et la couronne de Basse Égypte, c'est la partie inférieure, qui est une espèce de couronne basse, mais qui s'élève à l'arrière, dans laquelle peut s'introduire la couronne de Haute Égypte. Vous avez Haute Égypte et Basse Égypte. OK ? Et donc, la couronne de Haute Égypte, la haute hein, est blanche, la couronne de Basse-Égypte est rouge, et la totalité, au titre de fait ce qu'on appelle le pshent. Donc là, ils ont le pshent sur le némès. D'accord ?
Ça s'écrit comment ?
Oh, il y a toujours des H, des... Je sais pas. Alors, P-S-H-E-N-T. Je ne dois pas ouvrir, oublier des H, mais quelquefois, c'est terrible. Il y a des K, des H partout. Voilà. Bien, donc vous avez une triade, vous avez tout à fait bien vu, bien reconnu, hein. Pas de problème. Sauf qu'on ne sait pas quel est le pharaon qui est là, mais ça, c'est pas... Il y avait certainement le nom du pharaon, mais dans sur le bloc, si vous voulez, sur lequel il était fixé. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais quand même ne pas que nous nous quittions sans voir une chose célèbre. C'est-à-dire ça. Alors ça, c'est quoi ? Et ben voilà, c'est Toutankhamon. Ça, c'est le masque funéraire de Toutankhamon, sauf que c'est pas le masque funéraire de Toutankhamon. Parce que dès qu'on voit un masque en or, tiens, c'est le flagellum de Toutankhamon. Donc il a plusieurs tombeaux, etc. Mais c'est oublié qu'à Tanis, dans une ville du Delta, en 1940, un archéologue français, d'ailleurs, hein, a découvert la tombe de ce monsieur, Psousenès, hein, qui lui-même était enterré dans un caveau funéraire avec un masque d'or, etc. D'ailleurs, son épouse aussi, son général également. Enfin voilà. Ouais, hein. C'est bizarre, on n'en parle à peu près pas. Il y a pourtant eu une exposition à Paris il y a quelques années sur Tanis et sur ces objets tout à fait étonnants qui ont été découverts à Tanis, qui sont au musée du Caire aujourd'hui. Hein. Mais bon, voilà, Toutankhamon qui est un plus ancien, hein, on est 4 siècles après ici à Tanis, mais tout vraiment, évidemment, est un souverain quelque part plus romantique. Voilà, alors je voulais évidemment à la fin de la séance vous faire tomber dans le piège, j'ai réussi, je suis très très, très content de moi.
C'était facile.
Voilà, mais ça vous permet pas de voir que, décidément, cette culture égyptienne est une culture absolument énorme. Hein. On a fait 5 séances, on pourrait en faire 4 fois plus, on n'aurait évidemment pas épuisé le sujet. Mais je trouve que ça, c'est un exemple qui montre, je crois, hein, quel point. À la fois, on commence à mieux connaître, nous autres, hein, on est dans une culture qui est immense. Quoi.
Entre Toutankhamon et ce personnage, combien de temps ?
Eh bien, 4 siècles. Ah, oui, on est en 1000. Oui, ah oui. De toute façon, c'est ça l'extraordinaire de la culture égyptienne, c'est quand même. En même temps, des évolutions, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec Amenophis, Akhenaton, Toutankhamon, etc. Il y a donc des évolutions, on l'a vu aussi avec Ptolémée, etc. Mais il y a aussi une persistance. Quoi. C'est...
1000 avant Jésus-Christ, c'est à peu près le roi David
De la Bible.
De la Bible.
La Bible. Mais non, non, effectivement, c'est une culture qui est tout à fait donnante. On le voyait tout à fait au départ, vous savez, quand on a regardé la chronologie au départ, on a finalement une culture qui, sur 3000, 3500, et on pourrait même aller plus loin, hein, ans, voire plus, est une culture avec une grande continuité. D'où, effectivement, le nombre colossal d'œuvres qui existent encore. Parce que c'est une culture très, très longue. Nous, encore une fois, notre culture, c'est 2000 ans. Là, on parle du double. Donc c'est énorme. C'est une culture immense, la culture égyptienne. Donc c'est vraiment une culture qui, dans le temps, a produit énormément, parce qu'elle a duré deux fois plus que nous. Nous, finalement, vous voyez, la culture égyptienne, c'est l'équivalent de nous et ce qui se passait 2000 ans avant Jésus-Christ en Gaule.
Deux fois.
C'est deux fois notre chronologie à nous. Si tant est que nous dirions que notre culture à nous vient, en gros, de l'époque romaine, vous voyez. Mais même si on va avec l'époque gauloise et un peu avant, on va gratter jusqu'à 500 avant Jésus-Christ, vous voyez ce que je veux dire. Là, on est encore bien au-delà. Donc, nous, notre culture est finalement. C'est pour dire c'est mieux, c'est pas bien, c'est pas ça le but. Hein. Mais c'est pour montrer une espèce d'immensité. On est dans une culture qui, en gros, sur 3500 ans, voire plus, qu'on n'a pas parlé des Coptes, par exemple. On n'a pas parlé de l'époque de Nagada, qui est une époque plus ancienne, etc. Hein. D'une culture qui, vraiment, sur 3500 ans à peu près, est une culture qui a des évolutions, mais qui a quand même une immense longévité et cohérence. Et ça, c'est effectivement impressionnant. Je crois. Voilà.
Ce qui me touche aussi, c'est l'intendance qu'il y a derrière tout ça. Parce que quand on voit tous les temples, toutes les pyramides, il y a un travail immense.
Ouais.
Quels sont les nombres de jours hommes pour faire tout ça?
Ah oui.
Où est-ce qu'on a trouvé la matière? Où est-ce qu'on a trouvé l'intendance pour les héberger, pour les nourrir, etc. Moi, ça me pose question.
Disons que ce qui se passe, c'est qu'il y a des conditions sociales qui sont tout à fait autres qu'aujourd'hui. Le pharaon ne s'embête pas de demander à 4000 personnes de lui construire un temple. C'est pas un problème. Il a passé devant le Sénat et dans le champ des députés.
Il paraît que c'était pas des esclaves qui faisaient
non.
ça.
Non, pas forcément, non.
Non, des gens qui le voulaient.
Qui le voulaient. Disons qu'on les engageait à le faire. Mais ils pouvaient ne pas.
C'est peut-être pour
eux. Oui. Oui, peut-être partiellement. Mais en tout cas, le pharaon, je veux dire que voilà, c'est le roi, c'est un dieu sur terre. Là, il ne va pas s'embêter à demander leur avis aux gens. Hein.
Ouais.
Là, vous devez construire, point. Et c'est vrai que tout tourne aussi autour de ça. Hein. Donc voilà, c'est un système qui a tenu comme ça longtemps. Je ne pense pas que... Enfin voilà, autre temps, autre mœurs. Hein. Aujourd'hui, évidemment, demander ça, c'est tout à fait impossible. Et je le dis d'ailleurs sans nostalgie. Je ne crois pas non plus que ce soit l'idéal.
C'est pas la cinquième
semaine.
Enfin, pas vraiment. Non, c'est pas du tout ça. On est dans un... dans un autre contexte.
Ouais.
Et ben voilà, j'espère qu'on aura durant ces séances. Bravo en tout cas. Hein.
Bravo.
Oh ben non.